une réunion sur la Syrie prévue à Téhéran dans le cadre du processus d'Astana, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. L'Iran condamne les États-Unis pour avoir imposé des sanctions sur un projet énergétique. Et toute décision politique d'abuser du Conseil des gouverneurs pourrait affaiblir les coopérations entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, a annoncé un haut responsable iranien. C'étaient les principaux titres de l'actualité, voici le journal. Une réunion trilatérale Iran-Turquie-Russie dans le cadre du processus d'Astana sur la paix en Syrie se tiendra bientôt à Téhéran, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu lundi à Istanbul. Selon la chaîne libanaise Al-Mayadin, Zarif a qualifié l'interaction entre les deux pays de très très utile avant d'appeler les équipes médicales iraniennes et turques à travailler ensemble pour lutter contre le coronavirus. Qualifiant encore de très importante la réouverture des frontières pour la poursuite des échanges entre la Turquie et l'Iran, Mohammad Javad Zarif a ajouté « L'une des questions les plus importantes dont nous avons discuté avec notre homologue turc est la reprise des échanges entre les deux pays et à cet égard, le commerce ferroviaire continuera. Nous annoncerons la nouvelle dès que les deux parties parviendront à un accord définitif sur la réouverture des frontières », a ajouté le diplomate iranien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Mousavi, a dénoncé les États-Unis pour avoir imposé de nouvelles sanctions au projet de transfert d'énergie du nord de la Russie vers l'Europe, appelé Nord Stream 2. Comme il a été averti à maintes reprises qu'un tyran deviendra plus brutal si vous succombez, le tyran américain menace maintenant ses alliés de l'Union européenne, a écrit Mousavi sur son compte Twitter lundi. L'habitude américaine de violer agressivement la loi ne fera que conduire au chaos mondial. Quand le monde va-t-il comprendre la réalité et se soulever contre ce tyran, a-t-il ajouté. Le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des organisations internationales à Vienne a averti que toute décision politique d'abuser du Conseil des gouverneurs pourrait affaiblir les coopérations entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique IAEA, faisant allusion aux efforts de trois pays européens pour approuver une résolution anti-iranienne au Conseil des gouverneurs de l'IAEA, Kazem Gharibabadi a déclaré, alors que l'Iran coopère de manière intensive et constructive avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'objectif de demander à l'Iran de coopérer et de répondre aux deux demandes de l'IAEA est une action regrettable et totalement non constructive. Gharibabadi a déclaré « Il est vrai que nous coopérons de manière approfondie et transparente avec l'IAEA, mais cela ne signifie pas que nous répondons positivement à chaque demande de l'agence, surtout quand cette demande soit sur la base des fausses déclarations de nos ennemis. Aucun autre pays ne fera de même. La résolution a été présentée par des pays qui possèdent eux-mêmes des armes nucléaires ou qui hébergent ces armes de destruction massive. Quand ces pays examinent leurs préoccupations concernant l'Iran, en effet, ils se moquent des normes internationales concernant les accords de désarmement et de non-prolifération, a ajouté le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des organisations internationales à Vienne. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a fait état d'une opération de grande envergure contre les hangars d'avions, des entrepôts de munitions et d'autres cibles militaires sensibles du régime agresseur saoudien Khamis Mouchait. Ces coups précis ont été portés sur la zone militaire dirigée par l'Arabie saoudite lors de l'opération qui a eu lieu lundi soir à l'aide de drones Qassif 2K. L'opération constitue une riposte aux raids et aux massacres continus et incessants des civils innocents par la coalition d'agression saoudienne. Le général de brigade Sari a promis que les forces armées yéménites poursuivraient leurs opérations tant que la coalition d'agression poursuivrait son blocus, ses attaques et ses crimes contre le peuple yéménite. La Corée du Nord a détruit ce mardi le bureau de liaison avec le Sud à Kaesong, une ville située près de la frontière, a annoncé le ministère de l'Unification à Séoul, plusieurs jours après des propos virulents de la part de Pyongyang. La Corée du Nord a fait exploser le bureau de liaison à Kaesong à 14h49, a annoncé le porte-parole du ministère sud-coréen en charge des relations entre les deux Corées dans un communiqué d'une ligne envoyée à la presse. Cette annonce est intervenue quelques minutes après que l'agence de presse sud-coréenne a fait état d'une explosion entendue et d'une fumée vue s'enlever d'un complexe industriel conjoint qui abrite son bureau de liaison transfrontalier. Cette destruction survient après des menaces proférées ce week-end par la sœur du leader nord-coréen contre la Corée du Sud. Dans peu de temps, l'inutile bureau de liaison entre le Nord et le Sud sera complètement détruit au cours d'une scène tragique, avait-elle mis en garde plus tôt. Un officier indien et deux soldats ont été tués lors d'un face-à-face avec les troupes chinoises. Un officier indien et deux soldats ont été tués ce 16 juin lors d'un face-à-face avec les troupes chinoises, indique le Times of India. Les faits se sont déroulés à la frontière dans la nuit du 15 au 16 juin, précise le quotidien, en plein processus de désescalade dans la vallée de Galvan. Actuellement, des hauts responsables militaires des deux pays s'entretiennent pour désamorcer la situation. La Chine a accusé mardi l'Inde d'être responsable de l'incident qui a opposé la veille les deux géants asiatiques, affirmant que l'Inde avait franchi à deux reprises leurs frontières contestées et avait attaqué des soldats chinois. Le nouveau président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, élu le 20 mai, prêtera serment jeudi lors d'une cérémonie initialement prévue au mois d'août, mais avancée en raison du décès soudain du président sortant Pierre Nkurunziza, a-t-on appris lundi de sources officielles. Le ministère burundais des Affaires étrangères a invité les représentations diplomatiques au Burundi à bien vouloir prendre part aux cérémonies d'investiture du président élu, Son Excellence Evariste Ndayishimiye, qui aura lieu lundi 18 juin 2020 à 11h. Vendredi, la Cour constitutionnelle avait estimé que le nouveau président, issu des rangs du parti du pouvoir, devrait entrer en fonction le plus rapidement possible, sans période d'intérim. Le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a accepté lundi la proposition des pays africains d'organiser un débat urgent mercredi sur le racisme et les violences policières dans le contexte de la mobilisation mondiale après la mort de George Floyd aux États-Unis. La décision a été prise sans qu'aucun des 47 pays membres de l'organe de l'ONU ne s'y oppose à la reprise de la 43e session du Conseil des droits de l'homme qui avait été interrompue à la mi-mars par la pandémie de COVID-19. La présidente du Conseil des droits de l'homme a précisé que la réunion se tiendrait mercredi et ce type de débat urgent organisé pendant une session du Conseil des droits de l'homme permet d'adopter des résolutions alors même que le délai imparti pour déposer un projet de résolution a expiré. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. S'agit-il d'un coup d'État militaire à partir de l'aéroport international de Beyrouth, signé par les États-Unis et Israël? Avouons que les Américains voient à travers le Premier ministre Hassan Diab un homme à démonter le mécanisme de corruption et ses relais locaux, et partant, l'homme par qui le Liban souverain pourrait renaître. Dans un contexte marqué par la démonstration de force du front américain au Liban, où ce dernier, surfant sur la vague créée par la dépréciation de la monnaie nationale combinée aux sanctions américaines, exige comme remède à tous les maux du Liban un Hezbollah sans armes. Une information particulièrement significative vient de tomber sur le Telex en provenance de Beyrouth. Le directeur de la Sûreté générale libanaise, le général Abbas Ibrahim, a annoncé qu'il avait reçu des informations sur une tentative d'orchestrer une attaque terroriste contre l'aéroport international de la capitale. Aujourd'hui, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a accueilli le général Abbas Ibrahim, qui lui a fourni, lors de cette rencontre, un rapport au sujet d'un complot terroriste visant à attaquer l'aéroport international de la capitale, a annoncé le site d'information libanaise Al-Nashra. On se souvient fort bien en effet de cet octobre 2018, date à laquelle le premier ministre sioniste avait accusé le Hezbollah d'avoir placé près de l'aéroport international de Beyrouth trois sites secrets pour transformer les projectiles inadaptés en missiles guidés, ou ce qui revient au même, rendre de simples missiles intelligents. À l'époque, le ministère libanais des Affaires étrangères avait pris l'initiative de conduire une délégation de 73 journalistes sur les lieux pour prouver que cette accusation n'avait ni queue ni tête et que les missiles, le Hezbollah, n'en entrepose par là où il y a un si gros trafic de civils. D'ailleurs, ces missiles, qui font le cauchemar de l'entité sioniste, sont destinés à protéger le Liban, sa terre, sa mer et son ciel contre un Israël qui, une fois l'affaire de l'annexion de la Cisjordanie et du Golan occupé réglé, ne tarderait pas, et il l'a lui-même reconnu, à se tourner vers le Liban pour en amputer d'abord Gadjar et Sheba et s'en accaparer les gisements gaziers offshore, une perspective qui, rappelons-le, ne cesse de buter depuis 2006 sur une nouvelle règle d'engagement ou un équilibre de la terreur, lequel empêche Israël, cette toile d'araignée, de menacer à tort et à travers, de ramener le Liban à l'âge de pierre. Mais pourquoi une attaque terroriste contre l'aéroport de Beyrouth? Eh bien, parce que c'est là que devra se concrétiser la fin de la suprématie aérienne d'Israël au Levant. Depuis 2013, le ciel libanais a servi à des centaines de fois de base arrière à des frappes israéliennes contre la Syrie. Et en 2019, Tel Aviv s'est même payé le luxe d'y lancer une frappe au drone contre le sud de la capitale libanaise. Or, un Liban capable d'assurer sa propre défense, de choisir sa propre politique, qui ose négocier des contrats gaziers avec la Russie, la construction de ses ports avec la Chine, commercer avec la Syrie, l'Amérique ne peut le tolérer. Hassan Ezzedine, un membre du bloc de la fidélité à la résistance au Parlement libanais, résume en quelques mots la situation. Ce qui se passe à l'heure actuelle au Liban est le résultat des sanctions économiques que les États-Unis imposent au Liban et aux Libanais dans le strict objectif d'arriver à une crise sécuritaire majeure dans le pays et affecter le Liban et ses forces vives. Cela s'inscrit pourtant dans un plan américain qui a à maintes reprises échoué. Le remettre à l'ordre du jour, ce n'est qu'une perte du temps, a dit le député libanais qui poursuit, après avoir subi des échecs successifs dans leurs objectifs militaires et sécuritaires, ainsi que dans le domaine des sanctions économiques visant l'Iran, le Venezuela ou la Syrie et les courants de la résistance au Liban et en Palestine, les États-Unis imaginent qu'avec des sanctions économiques, ils pourraient rattraper leur fiasco sur le champ de bataille en faveur d'Israël.